un gâteau croissant. Puis survint la révolution scientifique, avec la notion de progrès. Cette notion repose sur l'idée que, pour peu que nous reconnaissions notre ignorance et investissions des ressources dans la recherche, les choses peuvent s'améliorer. Cette idée allait bientôt trouver une traduction économique. Croire au progrès, c'est croire que les découvertes géographiques, les inventions techniques et les développements organisationnels peuvent accroître la somme totale de la production humaine, du commerce et de la richesse. De nouvelles routes commerciales pouvaient prospérer sans ruiner les routes anciennes de l'océan Indien. On pouvait produire de nouvelles marchandises sans réduire la production des anciennes. Par exemple, on pouvait ouvrir une nouvelle boulangerie spécialisée dans les gâteaux au chocolat et les croissants sans que les boulangeries spécialisées dans le pain n'aillent dans le mur. De nouveaux goûts pouvaient se former et les gens mangeaient plus. Je peux m'enrichir sans que vous deveniez pauvre. Je puis être obèse sans que vous mouriez de faim. La taille du gâteau peut augmenter. Au cours des 5 derniers siècles, l'idée de progrès a convaincu les hommes d'avoir toujours plus confiance dans l'avenir. Cette confiance a créé le crédit, et le crédit s'est soldé par une réelle croissance économique, laquelle a renforcé à son tour la confiance dans le futur et ouvert la voie à encore plus de crédit. Cela n'est pas arrivé du jour au lendemain. Le comportement de l'économie ressemble moins à la trajectoire d'un ballon qu'à des montagnes russes. À long terme, cependant, les bosses égalisées, la direction générale ne faisait pas l'ombre d'un doute. De nos jours, le crédit est si abondant que les États, les entreprises et les particuliers n'ont aucun mal à obtenir des prêts importants à long terme et à faible taux d'intérêt qui dépassent de beaucoup leurs revenus actuels. La croyance à la croissance du gâteau global se révéla finalement révolutionnaire. En 1776, l'économiste écossais Adam Smith publia « La richesse des nations », qui est probablement le manifeste économique le plus important de tous les temps. Au chapitre 8 de son premier volume, Smith avance un argument inédit. Quand un propriétaire terrien, un tisserand ou un cordonnier réalise plus de profit qu'il n'en a besoin pour entretenir sa famille, il utilise le surplus pour employer des collaborateurs et augmenter encore ses profits. Plus il fait de profit, plus il peut employer d'aide. Il s'ensuit que l'augmentation des profits des entrepreneurs privés est la base d'une croissance de la richesse et de la prospérité collective. Si cela ne vous frappe pas par son originalité, c'est que nous vivons tous dans un monde capitaliste qui tient le raisonnement de Smith pour acquis. Nous entendons des variations sur ce thème à longueur de journée aux actualités. Pourtant, l'idée de Smith selon laquelle la pulsion égoïste qui pousse l'homme à accroître ses profits est la base de la richesse collective est l'une des idées les plus révolutionnaires de l'histoire humaine. Révolutionnaire non pas simplement dans une perspective économique, mais plus encore dans une perspective morale et politique. Ce que dit Smith, au fond, c'est qu'il est bien d'être cupide, et qu'en m'enrichissant, je profite à tout le monde, pas simplement à moi. L'égoïsme est altruiste. Smith a appris à penser l'économie comme une situation gagnant-gagnant, où mes profits sont aussi les vôtres. Non seulement nous pouvons avoir tous les deux en même temps une plus grosse part du gâteau, mais l'augmentation de votre part dépend de l'augmentation de la mienne. Si je suis pauvre, vous aussi serez pauvre, parce que je ne peux pas acheter vos biens et vos services. Si je suis riche, vous aussi vous enrichirez, parce que vous allez pouvoir me vendre quelque chose. Smith nia la contradiction traditionnelle entre richesse et morale et ouvrit aux riches les portes du ciel. Être riche, c'était être moral. Dans la version de Smith, on s'enrichit non pas en dépouillant ses voisins, mais en augmentant la taille générale du gâteau, et quand celui-ci augmente, tout le monde en profite. Les riches sont en conséquence les membres les plus utiles et les plus bienfaisants de la société parce qu'ils font tourner les roues de la croissance à l'avantage de tous. Encore faut-il que les riches utilisent leurs profits pour ouvrir de nouvelles usines et recruter de nouveaux employés plutôt que de les gaspiller en activités non productives. Aussi, Adam Smith devait-il répéter comme un mantra cette maxime « Si ses profits augmentent, le propriétaire foncier ou le tisserand embauchera des aides. » Et non, « Si ses profits augmentent, Harpagon fourrera son argent dans sa cassette et ne l'en sortira que pour compter ses pièces. » Un élément crucial de l'économie capitaliste moderne a été l'émergence d'une nouvelle éthique, suivant laquelle les profits doivent être réinvestis dans la production. Celle-ci procure encore des profits, et ainsi de suite, ad infinitum. L'investissement peut prendre des formes diverses, agrandir l'usine, mener des recherches scientifiques, mettre au point de nouveaux produits. Mais tous ces investissements doivent d'une manière ou d'une autre accroître la production et se traduire par de plus gros profits. Dans le nouveau credo capitaliste, tel est le premier commandement, le plus sacré. Tu réinvestiras les profits de la production pour augmenter la production. C'est pour cela que le capitalisme s'appelle le capitalisme. Le capitalisme distingue le capital de la simple richesse. Le capital, c'est l'argent, les biens et les ressources investies dans la production. La richesse, à l'opposé, est enfouie dans le sol ou dilapidée en activité improductive. Un pharaon qui consacre ses ressources à une pyramide improductive n'est pas un capitaliste. Un pirate qui pille la flotte espagnole et enfouit un coffre plein de pièces rutilantes dans le sable d'une plage d'une île des Caraïbes n'est pas un capitaliste. L'ouvrier d'usine qui trime et place une partie de son revenu à la bourse en est un. L'idée que les profits de la production doivent être réinvestis dans l'accroissement de la production paraît triviale. Elle n'en fut pas moins étrangère à la plupart tout au long de l'histoire. Dans les temps prémodernes, les gens croyaient que la production était plus ou moins constante. En ce cas, à quoi bon réinvestir ses profits si cela ne fait guère augmenter la production, quoi qu'on fasse? Aussi, les nobles du Moyen-Âge épousaient-ils une éthique de la générosité et de la consommation ostentatoire? Ils dépensaient leur fortune en tournois, banquets, palais et guerres, mais aussi en œuvres de charité et en cathédrales monumentales. Peu essayaient de réinvestir leurs profits en accroissant la production de leurs manoirs, en développant de meilleures espèces de blé ou en se mettant en quête de nouveaux marchés. Dans les temps modernes, la noblesse a laissé la place à une nouvelle élite de vrais croyants au credo capitaliste. Cette nouvelle élite capitaliste se compose non pas de ducs et de marquises, mais de présidents de conseils d'administration, de courtiers en bourse et d'industriels. Ces manias sont bien plus riches que la noblesse du Moyen-Âge, mais bien moins intéressés par la consommation extravagante, et ils consacrent une partie bien moindre de leurs profits en activités non productives. Les nobles du Moyen-Âge portaient des robes colorées d'or et de soie et consacraient une bonne partie de leur temps en ripaille, au carnaval et aux tournois de prestige. En comparaison, les PDG modernes portent de sinistres uniformes, qu'on appelle costumes, qui leur donnent des allures de hordes de corbeaux, tandis qu'ils manquent de temps pour les festivités. Le capitaliste à risque typique court d'un rendez-vous d'affaires à l'autre, essayant de repérer ou investir ses fonds tout en suivant les hauts et les bas des actions et obligations qu'il possède. Certes, il peut s'habiller chez Versace et voyager en jet privé, mais ses frais ne sont rien en comparaison de ce qu'il investit pour accroître la production. Les grosses légumes habillées par Versace ne sont pas les seuls à investir pour accroître la productivité. Les gens ordinaires et les organismes officiels se livrent au même genre de réflexion. Combien de conversations de table dans des quartiers modestes s'enlisent tôt ou tard en un débat interminable pour savoir s'il vaut mieux placer ses économies en actions, en obligations ou dans l'immobilier? L'État s'efforce lui aussi d'investir les recettes fiscales en entreprises productives qui augmenteront les revenus futurs. Par exemple, la construction d'un nouveau port pourrait aider les usines à exporter leurs produits, leur permettant de dégager davantage de chiffres d'affaires et laissant ainsi espérer au pouvoir public une augmentation des recettes fiscales. Un autre gouvernement préférera investir dans l'éducation, sous prétexte que les gens instruits sont la base des industries lucratives de haute technologie, lesquelles font rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État sans nécessiter des installations portuaires onéreuses. le capitalisme fut d'abord une théorie du fonctionnement de l'économie. Cette théorie était à la fois descriptive et prescriptive. Elle expliquait les mécanismes monétaires et encourageait l'idée que réinvestir les profits dans la production est la source d'une croissance rapide. Peu à peu, cependant, le capitalisme devint bien plus qu'une simple doctrine économique. Il comprend désormais une éthique, un ensemble de doctrines sur la façon dont les individus doivent se conduire, éduquer leurs enfants et même penser. Son principal dogme est que la croissance économique est le bien suprême, parce que tout le reste en dépend, la justice, la liberté et même le bonheur. Demandez à un capitaliste comment apporter la justice et la liberté politique à un pays comme le Zimbabwe ou l'Afghanistan. Probablement aurez-vous droit à une leçon vous expliquant combien l'abondance économique et une classe moyenne prospère sont essentielles à des institutions démocratiques stables, ou soulignant la nécessité d'inculquer aux tribus afghanes les valeurs de la libre entreprise, de l'épargne et de l'autonomie. Cette nouvelle religion a également eu une influence décisive sur le cours de la science moderne. Le financement de la recherche scientifique est généralement assuré par l'État ou les entreprises privées. Quand des États et des sociétés capitalistes envisagent d'investir dans un projet scientifique donné, la première question est habituellement « Ce projet va-t-il nous permettre d'accroître la production et les profits ? Va-t-il susciter la croissance économique ?» Faute de franchir ces obstacles, un projet a peu de chances de trouver un sponsor. Aucune histoire de la science moderne ne peut faire l'impasse sur le capitalisme. Inversement, l'histoire du capitalisme est inintelligible si l'on ne tient pas compte de la science. La croyance du capitalisme en une croissance économique perpétuelle va contre tout ce que nous savons, ou presque, de l'univers. Ce serait pure folie pour une société de loups que de croire que l'offre de moutons ne cessera de croître. L'économie humaine n'en a pas moins réussi à continuer de croître tout au long de l'ère moderne pour la simple raison que les hommes de science ont enchaîné les découvertes et les gadgets, continent américain, moteur à combustion interne ou moutons génétiquement modifiés. Banques et pouvoirs publics impriment la monnaie, mais au bout du compte, ce sont les hommes de science qui casquent. Au cours des toutes dernières années, banques et États ont frénétiquement fait tourner la planche à billets. Tout le monde est terrifié à l'idée que la crise économique actuelle puisse arrêter la croissance. Aussi créent-ils de toutes pièces des billions de dollars, d'euros et de yens, injectant, dans le système, du crédit bon marché, tout en espérant qu'hommes de science, techniciens et ingénieurs parviendront à trouver quelque chose de vraiment géant avant que la bulle n'explose. Tout dépend des gens dans les labos. De nouvelles découvertes dans le domaine de la biotechnologie ou des nanotechnologies pourraient créer des industries entièrement nouvelles dont les profits pourraient soutenir les billions de monnaies factices que les banques et les États factices ont créés depuis 2008. Si les labos ne répondent pas à ces attentes avant que la bulle n'explose, nous allons au devant de temps très rudes.